France Inter. Et voici le journal présenté par Frédéric Barrère. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir à tous. Les opposants à l'A69 ont manifesté aujourd'hui à Toulouse. Le projet d'autoroute A69 entre Castres et Toulouse ne fait pas l'unanimité. Plusieurs associations environnementales luttent depuis plusieurs mois contre le chantier de l'A69. Un cortège sans débordement malgré un contexte général tendu. Reportage dans un instant. Une nouvelle aide à l'Ukraine adoptée par la Chambre des représentants hier aux États-Unis. Kiev devrait recevoir 61 milliards de dollars. Un plan d'aide qui montre que l'Ukraine ne sera pas un deuxième Afghanistan, selon le président Zelensky. Dans ce journal également, le traité international contre la pollution plastique et les ministres de l'écologie de plusieurs dizaines de pays se retrouvent ce soir à Ottawa, au Canada, pour poursuivre les négociations. L'intelligence artificielle au service des touristes pour les JO de Paris. Et IAM, les gardiens du rap français, annoncent un concert au Vélodrome en juin 2025, un événement à Marseille. La météo, la journée de demain, s'annonce particulièrement fraîche, Camille Esnault.
Oui, avec des températures bien en dessous des normales de saison, comparables à un début mars, et toujours ce régime d'averse à l'est du pays.
Prévision complète à la fin de ce journal.
France Inter.
La mobilisation se poursuit pour les opposants au projet de l'autoroute A69. Plus de deux mois après leur dernier rassemblement, place du Capitole, à Toulouse, les opposants entre 1500 selon la préfecture et 5000 selon les organisateurs se sont donc donné rendez-vous cet après-midi pour une marche vers le palais de justice. Une dizaine de collectifs, partis de gauche et associations participent à une manifestation dans une ambiance calme malgré un contexte général tendu. Des responsables du chantier sont mis en cause pour des infractions environnementales et des engins de chantier ont été incendiés récemment. Reportage à Toulouse, Morgane Klein-Refait.
C'est la première mobilisation de Sylvie contre le projet d'autoroute.
Comme je suis toulousaine, je me suis dit c'est l'occasion ou jamais de venir.
Car aller sur le chantier, pour elle, c'était trop risqué.
J'ai un petit peu peur de toutes ces violences, effectivement. Donc à Toulouse, ça fait moins peur.
Dans la haie d'honneur pour les militants qui arrivent après avoir fait Castres-Toulouse à vélo, certains sont même là en famille, comme Cécile.
Avec mes enfants, c'était en effet plus facile de venir ici. Je ne les aurais pas emmenés dans un lieu risqué où je ne sais pas comment ça pouvait se passer. Là, je sais que voilà, il y a aussi ce côté bon enfant contre ce projet pour défendre le vivant.
Nora et Maëlle, 13 et 10 ans, acquiescent.
Cette route, c'est cher, je pense, pour les gens qui vont passer. Puis après, il y a le côté environnement.
Et je viens manifester pour pas couper les arbres.
Touche pas à nos arbres, ont-ils écrit sur leur pancarte. Un peu plus loin, Stéphane se réjouit de voir autant de monde.
Une mobilisation à Toulouse, ça permet de voir un peu l'ampleur de ceux qui s'opposent à la 69. Il y a une lutte judiciaire, le chantier est arrêté, mais il faut aussi une mobilisation citoyenne derrière tout ça.
Alterner les manifestations en ville et les actions coup de poing sur le chantier, c'est désormais la stratégie pour les prochains mois.
Et puis à Paris, plusieurs milliers de personnes, 3000 selon une source policière, ont défilé contre les racismes et l'islamophobie dans le cadre d'une marche visant en particulier les violences policières. Les violences policières sont les violences les plus graves qui touchent nos enfants, ceux des quartiers, les enfants pauvres, noirs ou arabes, a déclaré Yessa Belkodja, co-initiatrice de cette marche. Cette marche à l'appel d'une cinquantaine d'organisations au total, dont la France Insoumise, le NPA, Attaque et Solidaire, avait été interdite par le préfet de police, puis autorisé par la justice. La campagne pour les élections européennes est une déclaration remarquée du Premier ministre qui fait réagir aujourd'hui la tête de liste Renaissance. Jeudi dernier, Gabriel Attal affirmait que la campagne n'a pas encore commencé et ce dimanche, Valérie Ayer lui répond sur France Inter. Invitée de questions politiques, Valérie Ayer indique que de son côté, la campagne a bel et bien démarré.
La campagne, elle a commencé. On est mobilisés depuis le premier jour. Gabriel Attal a participé au meeting de Lille. Oui. J'ai fait effectivement du porte-à-porte avec lui. Et par contre, on va accélérer effectivement parce que les Français, il faut le dire, ne sont pas encore totalement conscients qu'il y a une élection. Je fais campagne partout en France depuis le premier jour de mon investiture. Ce que je perçois, c'est qu'il y a un besoin d'Europe, il y a une sensibilité au sujet européen, mais effectivement, ça nécessite des explications sur ce qu'on a fait. Et ce qu'il faut dire aussi aux Français, c'est que on est dans une élection, c'est parfois galvaudé de le dire, dire, mais dans l'élection probablement la plus importante de l'histoire du Parlement européen depuis qu'il existe, et de l'Europe depuis que ces élections-là existent. D'abord parce que les défis qui sont devant nous n'ont jamais été aussi importants. Le défi de la transition environnementale, le défi sécuritaire avec la guerre aux portes de l'Europe, avec la nécessité de protéger nos frontières, le défi aussi du numérique avec le développement de l'intelligence artificielle par exemple. Donc ce sont des défis auxquels il faut qu'on puisse répondre en européen.
Valérie Ayer avec Karine Bécart. Et puis à l'agenda présidentiel la semaine prochaine, Emmanuel Macron va enfiler une nouvelle fois le short et les crampons mercredi à Plaisir dans les Yvelines. Le président de la République participera à un match de football, un match de gala contre des soignants. La rencontre se déroulera au profit des pièces jaunes. Une aide américaine cruciale pour Kiev et qui montre que l'Ukraine ne sera pas un deuxième Afghanistan, déclare aujourd'hui Volodymyr Zelensky. Une aide qui enverra au Kremlin un signal fort, ajoute le président ukrainien. Les États-Unis resteront aux côtés de l'Ukraine et protégeront la démocratie dans le monde. Hier soir aux États-Unis, la Chambre des représentants a donc voté une gigantesque enveloppe de 95 milliards de dollars, un vaste plan d'aide destiné à Israël, elle, à Taïwan, mais surtout à l'Ukraine qui devrait recevoir 61 milliards de dollars, un plan d'aide pour soutenir militairement et économiquement l'Ukraine qui est confrontée ces dernières semaines à une intensification de l'offensive russe. Mais de quelle aide parle-t-on ? Précision avec Gwendal Lavina.
Dans le détail, sur les 61 milliards de dollars votés hier, 23 milliards sont fléchés vers le budget américain. L'armée américaine pourrait ainsi reconstituer son stock d'équipements qu'elle transférerait ensuite aux Ukrainiens. 14 milliards alimenteront des fonds utilisés directement par l'Ukraine pour acheter des équipements aux entreprises fournissant l'armée américaine. Cette somme-là pourrait être débloquée immédiatement une fois le texte signé par Joe Biden et donc amener des armes dans les prochaines semaine, c'est cette aide qui est très attendue. Enfin, 11 milliards sont prévus pour les opérations américaines dans la région, qui par ricochet amènent du renseignement utile à Kiev, tout comme les 8 milliards de dollars restants d'aide non militaire destinés au paiement des salaires et des retraites, car malgré la guerre, le pays continue de tourner.
Et ce soir, le ministère ukrainien de la Défense annonce que sa marine a frappé un navire de sauvetage de sous-marins de la flotte militaire russe de mer Noire dans la péninsule de Crimée. De son côté, la Russie revendique la prise d'une localité près de Marmout dans l'est du pays où l'armée est à l'offensive face aux troupes ukrainiennes. En France, après plus de 2 ans de guerre, plusieurs villes continuent de se mobiliser pour les Ukrainiens. C'est le cas à Lille, jumelée avec Kharkiv, une ville située à 40 kilomètres du front ukrainien. Depuis aujourd'hui, une quarantaine de sportifs d'Ukraine sont accueillis à Lille pour souffler et profiter du calme loin de la guerre et des bombardements. Lisa Morizon, de France Bleu Nord, a recueilli les propos de l'entraîneuse des jeunes gymnastes ukrainiens.
Pour eux, c'est très important que les enfants qu'ils accompagnent puissent vivre un moment, au moins une semaine, sans les alertes, sans le bruit d'explosion des bombes sur leur ville. Mais aussi, le plus important pour eux, c'est vraiment de voir de nouveau le sourire sur le visage de leurs enfants et pas un sentiment d'inquiétude. Ils n'ont vraiment pas peur de revenir à Kharkiv. Au contraire, ils disent qu'ils ont peur de partir de là-bas parce qu'ils laissent leur famille, leur maison là-bas. Ils ont très peur que leur famille peut être en danger sans eux. Pour eux, c'est comme un mauvais rêve. Ils ne comprennent toujours pas comment cette guerre est possible, comment c'est possible juste d'entretenir autant de gens sans but particulier.
Le traité international contre la pollution plastique et les ministres de l'écologie de plusieurs dizaines de pays se retrouvent ce soir à Ottawa, au Canada. Les négociations pour conclure un traité international reprendront officiellement mardi, mais il y a eu des discussions informelles ce week-end et les ONG sont également présentes. L'idée n'est pas de prohiber le plastique, mais d'aboutir à une réduction drastique pour garder les usages indispensables. C'est le message que Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, veut porté à Ottawa pour Henri Bourgeois-Costa de la Fondation Tara Océan, également présent à Ottawa. Il s'agit là d'un enjeu majeur pour l'humanité.
Quand on parle de pollution plastique, on parle de réchauffement climatique, puisque aujourd'hui, presque 4% des émissions de gaz à effet de serre sont du fait des plastiques. On parle d'enjeux de santé et de toxicité environnementale. Plus de 16 000 molécules chimiques sont utilisées dans la fabrication des plastiques et une grande partie d'entre elles est problématique. Et puis on parle de déchets, évidemment, qui est la problématique qu'on connaît tous. Donc, on n'a pas d'autre choix que d'être optimiste. Aujourd'hui, le coût de l'inaction serait beaucoup plus dommageable à nos économies que le fait de travailler à réduire cette production de plastique. C'est évidemment quelque chose qui n'est pas partagé. Il y a deux camps qui s'opposent, les pays du Golfe, certains pays en développement, Russie et Inde en tête. Mais on a quand même une grande convergence de presque 70 États de la haute ambition. Il y a également toute une partie de pays qui ne sont pas dans la haute ambition, mais qui portent le même message, des petits pays du Sud, les petits pays du Pacifique, qui aujourd'hui doivent affronter cette pollution, qui aujourd'hui ont envie d'agir et ont bien pris conscience de l'urgence.
Henri Bourgeois-Costa de Tara Océan avec Marc Potvin de France Info. L'intelligence artificielle au service des touristes lors des JO de Paris qui débutent dans 96 jours maintenant en Ile-de-France. Plus de 15 millions de visiteurs sont attendus pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Des épreuves seront également organisées à Nantes, Lyon, Bordeaux ou encore Nice. Elles attireront également du public et parmi les visiteurs, une très large majorité de Français, quasiment 90%, mais aussi des étrangers. Alors pour aider tous ces touristes à se déplacer et à profiter au mieux des Jeux malgré l'affluence. Il y a un outil pour les JO, c'est l'intelligence artificielle, Aurore Richard.
Les visiteurs qui ont des billets pour le foot ou la voile à Marseille vont pouvoir poser toutes leurs questions à une intelligence artificielle. Où manger une bouillabaisse, quel musée visiter et évidemment tout ce qui est en rapport avec les JO. Cette IA a été créée par Provence Tourisme dont Isabelle Brémond est la directrice.
Pouvez-vous me donner la liste des sites qui sont concernés par les Jeux Olympiques? Évidemment, le stade Vélodrome ou la Marina. Et là, quels sont les itinéraires? Donc on a toujours la réponse qui s'affiche dans cet outil conversationnel.
Une réponse possible dans 7 langues au total. Dans les transports franciliens, la RATP a aussi déployé une application de traduction pour ses agents. Pour Guy Raffour, qui étudie les tendances touristiques, heureusement que les acteurs du secteur utilisent déjà l'IA depuis plusieurs années.
Les JO, comme c'est un événement planétaire et exceptionnel, avec beaucoup de défis organisationnels pour les touristes qui vont venir, ça peut accélérer son utilisation. Ça va être les JO de l'intelligence artificielle.
C'est d'autant plus vrai que cette technologie va également servir à assurer la sécurité des visiteurs avec la vidéosurveillance algorithmique.
Le sport ce dimanche avec en cyclisme la victoire de Tadej Pogacar lors de Liège-Bastogne-Liège. Le Slovène remporte la doyenne des courses cyclistes pour la deuxième fois. Romain Bardet termine deuxième et Mathieu Van Der Poel complète le podium. Du football avec la 30e journée de Ligue 1, PSG-Lyon à l'affiche ce soir. Le Paris Saint-Germain toujours en lice dans 3 compétitions. À l'occasion de faire un pas supplémentaire vers un 12e titre national, un record absolu. Des Parisiens qui ne sont pas rassasiés, loin de là. Julien Froment.
Ces dernières saisons, le printemps rimait au Paris Saint-Germain avec diète sportive. Les espoirs européens déjà envolés et le pain quotidien, la Ligue 1, rapidement avalé, faute de mieux. Cette fois-ci, Paris rêve de festin, de grande tablée avec un quadruplé qui pourrait être historique. Après le trophée des champions en apéro en janvier dernier, le menu s'annonce plutôt copieux. La Ligue 1 en entrée, la Coupe de France en plat de résistance et bien sûr la Ligue des champions en dessert. Tout sauf une surprise pour l'entraîneur Luis Enrique. Enfin gourmet, il avait déjà préparé la carte des festivités.
Je crois qu'à cette même table, au moment de ma présentation, j'ai clairement dit qu'on allait lutter pour tous les trophées. Nous sommes à un mois et demi de la fin de toutes les compétitions et nous sommes encore en vie dans toutes. C'était pour l'objectif pour l'instant. Contrat rempli, on verra comment on termine la saison, mais c'est clair qu'on est très bien placé et qu'on a une chance de remporter tous les trophées.
Et comme le veut la formule consacrée signée Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain doit désormais bien manger, bien dormir pour avaler ce programme gargantuesque qui pourrait faire entrer en juin prochain en cas de succès le Paris Saint-Germain au guide Michelin du football européen.
Et après le Parc des Princes, le Vélodrome à Marseille pour un tout autre événement très attendu à Marseille. IAM se produira pour la première fois à l'Orange Vélodrome le 28 juin 2025. Le groupe IAM que l'on présente comme les gardiens du rap français l'a annoncé hier soir à l'issue de leur concert au Moulin à Marseille. Et c'est un événement au Vélodrome, Stéphane Capron.
Cela fait des années que les fans marseillais réclamaient ce concert. Plus de 35 ans après sa formation, Ayam, gardien du temple du rap français, attendait le bon moment pour investir le chaudron du Vélodrome. Certainement poussé par la jeune génération, par Soprano, par Jules, qui s'y sont déjà produits plusieurs fois, le groupe de quinquagénaires ne pouvait plus se faire désirer. Actuellement en tournée avec son HH History Tour, le groupe a annoncé ses dates historiques à l'issue d'un concert à Marseille hier soir, dans une salle plus petite, le Moulin, dans le quartier Saint-Just. Après avoir été les spectateurs des matchs de l'OM depuis leur enfance, Akhenaton et sa bande seront dans un peu plus d'un an les acteurs d'un concert qui s'annonce déjà comme un événement et qui devrait faire le plein des 60 000 spectateurs. On sait déjà que les Marseillais ne seront pas seuls, ils seront accompagnés de plusieurs invités. Ayam prévoit aussi une vraie communion avec le public. Il y a fort à parier que leurs tubes, parfois écartés de leurs concerts, feront partie de la fête.
Ayam au Vélodrome le 28 juin 2025. Le temps froid pour demain.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques, Euromaster garantit votre mobilité et préserve votre budget.
Bonsoir Camille Esnault.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous.
Le froid s'installe sur la France au moins jusqu'à mercredi.
Et oui, la journée de demain sera sûrement la plus fraîche de la semaine, avec des températures comprises entre moins 1 du côté de Montluçon, 0 à Metz, 3 à Lille et 4 pour Toulouse ou encore pour Rennes. Les gelées seront fréquentes du massif central au nord-est et il fera entre 5 et 10 degrés en bord de mer. L'après-midi, ça ne grimpera pas au-dessus de 14 à 17 degrés pour la façade atlantique jusqu'au sud-ouest et à la Méditerranée. Vous aurez 10 à 14 degrés pour une bonne moitié nord-est.
Et de la pluie et de la neige attendues dans l'est.
Et oui, on retrouve ces averses sur l'Alsace, la Franche-Comté et l'Auvergne-Rhône-Alpes avec des flocons donc, qui pourront tomber dès 600 mètres le matin, 800 mètres l'après-midi. Sur le reste de la moitié nord, le ciel est partagé en matinée et devient plus lumineux l'après-midi. Et justement, dans la journée, ça se voile par l'ouest. Comme ce week-end, du sud-ouest à la Méditerranée, c'est le soleil qui va s'imposer, sauf sur la Côte d'Azur où ça reste encore orageux et sur les Pyrénées où quelques ondées sont possibles en soirée. Mistral et Tramontagne soufflent toujours entre 60 et 80 km/h en rafale. Et sur le reste du pays, on attend un vent de nord jusqu'à 50 km/h en rafale.